Chapitre 11. Causerie avec le lecteur. Rome est en ce moment paisible. Ses habitants l'ont quitté en grand nombre pour se rendre soit dans les montagnes, soit sur toute la ligne du littoral, de Gênes à Paestum, pour jouir des plaisirs de la campagne ou de ceux de la mer. Profitons donc de ce moment où voyagent nos héros pour donner au lecteur des renseignements historiques qui éclaireront le passé et aideront à comprendre la suite de notre récit. On étudie généralement l'histoire de la primitive Église dans de simples abrégés qui ne peuvent, à cause de leur étendue restreinte, indiquer que les faits sommaires. La seconde source où l'on puise des détails est la vie des saints qui souvent se suivent sans adopter l'ordre chronologique. On peut donc se former de fausses idées sur l'état des premiers chrétiens. Cela peut arriver de deux manières. On croit souvent que, dans les trois premiers siècles, l'Église, écrasée par des persécutions incessantes, vivait toujours dans les catacombes, sans oser se manifester au dehors. Selon cette opinion, l'Église, à cette époque, aurait traversé une période d'épreuves chaque jour renaissante, sans un seul intervalle de paix et de repos. Selon une autre opinion, les trois premiers siècles seraient divisés en 10 périodes qui marqueraient les époques des 10 persécutions, séparées les unes des autres par des années de repos et de sécurité complète. Ces deux opinions sont également erronées et nous voulons donner une idée plus exacte de l'état réel de la primitive Église et des événements de cette partie si intéressante et si féconde de son histoire. Depuis l'édit qui inaugura la première persécution jusqu'à la pacification définitive de Constantin, l'Église ne fut jamais complètement paisible. L'édit de persécution promulgué par un empereur était rarement retiré. L'exécution pouvait devenir moins rigoureuse quand un prince plus doux arrivait au trône, mais la loi de persécution ne devenait pas pour cela une lettre morte. Elle restait une arme dangereuse dans les mains d'un gouverneur de province cruel ou fanatique. C'est ainsi qu'entre les grandes persécutions ordonnées par les empereurs, nous trouvons de nombreux martyrs qui durent leur couronne à la fureur populaire ou à la haine particulière des magistrats de la cité contre les chrétiens. Nous voyons également une cruelle persécution sévir dans une partie de l'Empire, tandis que les chrétiens étaient paisibles sur les autres points du territoire. Peut-être quelques exemples des diverses phases de la persécution expliqueront-ils mieux les rapports de l'Église avec l'État que de simples dissertations. Trajan n'est pas considéré comme un empereur cruel. Il était au contraire juste et miséricordieux. Quoique sous son règne on n'ait pas publié de nouveaux édits contre les chrétiens, de nombreux martyrs, entre autres saint Ignace, évêque d'Antioche, et saint Siméon à Jérusalem, glorifièrent le Seigneur pendant que ce prince occupait le trône. Quand Pline le Jeune, gouverneur de Bithynie, consulta l'empereur sur la conduite à tenir envers les chrétiens qui pourraient être amenés devant son tribunal, Trajan lui adressa cette réponse peu digne d'un prince justicier. Ne les recherchez pas, mais si on les accuse, punissez-les. Adrien, qui ne promulgua pas d'édit de persécution contre les chrétiens, fit une réponse semblable à Serenius Granianus, proconsul d'Asie. Sous cet empereur, et même par ses ordres, l'intrépide Symphorosa et ses 7 fils furent cruellement martyrisés à Tibur ou Tivoli. Une belle inscription des catacombes rappelle le nom de Marius, un jeune officier qui versa son sang pour le Christ sous l'empereur Adrien. Saint Justin, martyr, le grand apologiste du christianisme, nous déclare qu'il doit sa conversion à la constance des martyrs qui moururent sous cet empereur. Avant les édits de persécution promulgués sous Septime Sévère, de nombreux chrétiens avaient souffert la mort. C'est à cette époque que remontent les martyrs de Sainte Perpétue et de Sainte Félicité avec leurs compagnes. Dans les cas de ces martyrs, on retrouve le journal d'une patricienne âgée de 20 ans qu'il écrivait la veille de sa mort. Ce document est un des plus touchants et des plus beaux de ceux qui nous viennent de la primitive Église. La persécution générale s'élevait donc de temps en temps comme une grande crise sur la surface de tout l'Empire. Puis il y avait des suspensions locales et partielles de ce fléau de main d'homme. Enfin, la rigueur des tyrans se relâchait sur tous les points à la fois. Un événement de ce genre va nous fournir des détails intéressants qui se rattachent à notre sujet. Lorsque la persécution de Septime Sévère fut presque partout éteinte, Scapula, proconsul d'Afrique, la prolongea avec une cruauté infatigable dans sa province. Il condamna entre autres Mavillus Andrumetum à être dévoré par les bêtes féroces. Mais tout à coup, il fut pris d'une fièvre dangereuse. Tertullien, le plus ancien des écrivains latins du christianisme, lui écrivit pour l'avertir qu'il devait voir dans cette maladie un signe de la vengeance céleste et lui conseiller de se repentir de ses crimes. Il lui citait l'exemple des persécuteurs du christianisme que la main de Dieu avait punis dès ce monde. Mais la charité de ces saints hommes était si grande qu'ils offraient au ciel des prières pour la guérison de leurs persécuteurs. Il rappelait au proconsul d'Afrique qu'il pouvait remplir ses devoirs sans être cruel et lui citait les magistrats qui s'étaient fait un renom de justice et de miséricorde. C'était Saint Cius Severus indiquant aux accusés les réponses qu'ils devaient faire pour être acquittés, Vespronius Candidus renvoyant un chrétien sous prétexte que sa condamnation pouvait exciter des troubles, Asper voyant un chrétien prêt à fléchir sous l'excès de la souffrance, empêchant de continuer la torture, en exprimant le regret qu'une telle cause ait été appelée à son tribunal, Pudens qui, apercevant l'acte d'accusation d'un chrétien, le déclara illégal, calomnieux et le déchira. Le caractère des gouverneurs, leur tendance particulière, avait donc une grande influence sur les persécutions qui s'élevaient dans les provinces. Saint Ambroise nous dit que les gouverneurs se vantaient d'avoir apporté de leur province leur glaive pure de sang, incruentos incest. On comprend facilement comment une atroce persécution pouvait sévir dans les Gaules ou en Afrique ou en Asie, tandis qu'une grande partie de l'Église restait en paix. Rome était incontestablement la ville où les manifestations de l'esprit hostile au christianisme se faisaient jour le plus fréquemment. Pendant les trois premiers siècles, ce fut comme le privilège de la plupart des pontifes de rendre par le sang témoignage à la foi qu'ils enseignaient. Le trône de Saint-Pierre était la première marche qui conduisait au martyr. À l'époque dont nous parlons, l'Église jouissait d'une paix relative, bien propre à favoriser son développement. Depuis la mort de Valérien en 268, aucune nouvelle persécution ne s'était élevée, quoique pendant cet intervalle, on compte encore de glorieux martyrs. Pendant ces périodes de calme, les chrétiens étaient libres d'exercer leur religion et de suivre leur culte à ciel découvert. La cité était divisée en districts ou paroisses, ayant chacune un titre, desservie par des prêtres, des diacres et des ministres de rangs inférieurs. Ils assistaient les pauvres, visitaient les malades, instruisaient les catéchumènes et administraient les sacrements. Le culte quotidien était rendu à Dieu et les canons pénitentiaires étaient appliqués par le clergé de chaque église. On recueillait les aumônes pour les pauvres, les malades et les besoins de l'Église naissante et l'on faisait des collectes pour remplir les devoirs imposés par la loi de l'Évangile et exercer la charité et l'hospitalité que le Christ recommande aux fidèles. On a compté en 250 à Rome, sous le pontificat de Cornelius, 46 prêtres, 150 ministres d'un degré inférieur et 1500 pauvres soutenus par les aumônes des frères. Le nombre des prêtres correspond à celui des titres des églises que Saint Optatus comptait à Rome. Les tombes des martyrs continuaient dans les temps de paix à être des lieux de pèlerinage et de dévotion pour les chrétiens, et ces asiles des persécutés étaient tenus en grand honneur. Cependant, on n'y célébrait pas alors les cérémonies du culte. Les églises dont nous avons parlé étaient souvent ouvertes, et déjà leur grandeur et leur beauté étaient remarquables. Les païens assistaient souvent aux sermons et aux parties des offices auxquelles les catéchumènes étaient admis. Mais généralement, les instructions avaient lieu dans des maisons particulières, dans ces vastes salles ou triclinia que contenaient les maisons patriciennes. Les premiers sanctuaires de Rome avaient ce caractère. Tertullien parle des cimetières chrétiens de manière à indiquer qu'ils étaient à la surface du sol, puisqu'il les compare à des aires qui reçoivent la lumière du jour. Une coutume en usage à Rome répond à l'objection qu'on pourrait faire que des réunions si nombreuses dans des maisons particulières devaient être suspectes et devenir dangereuses. Les riches avaient l'habitude d'avoir chaque matin ce que nous avons appelé un lever, où ils recevaient leurs clients, les messagers de leurs amis, des esclaves, des hommes libres. Les uns entraient dans la cour intérieure pour être admis en présence du maître, tandis que d'autres, après s'être présentés, étaient immédiatement congédiés. Des centaines de personnes pouvaient ainsi entrer dans une grande maison et en sortir, sans parler de la multitude des esclaves, des fournisseurs qui avaient accès à l'intérieur, et personne ne songeait à remarquer leur nombre. Il y a dans la vie sociale des premiers chrétiens un phénomène plus important qu'on pourrait à peine croire s'il n'était attesté dans les actes des martyrs et dans l'histoire ecclésiastique. C'est le secret dont les chrétiens parvenaient à s'entourer. Parmi les personnes qui occupaient les plus hauts postes de l'Empire, dans la société la plus élevée, dans l'entourage même des empereurs, il y avait des chrétiens et personne ne les soupçonnait. Leurs amis païens les plus intimes ne les devinaient pas. Dans certaines circonstances, les plus proches parents l'ignoraient, quoiqu'aucun mensonge, aucune action incompatible avec la morale chrétienne, ne fût autorisée pour assurer le secret. Mais toutes les précautions que la droiture permettait étaient prises pour dérober les chrétiens aux yeux du public. Cette prudence, si nécessaire pour prévenir les persécutions, nuisait souvent aux personnes qui étaient obligées d'y recourir. Le monde païen, le monde du pouvoir et du crédit, le monde officiel qui faisait les lois et tenait la main à leur exécution, qui recherchait les bonheurs de ce monde et haïssait la foi chrétienne, se sentait peu à peu envahi, entouré, pénétré par je ne sais quelle atmosphère mystérieuse dont il ne pouvait deviner l'origine latente et apprécier l'action. Les chefs de famille s'irritaient en découvrant qu'un fils ou qu'une fille avait embrassé cette loi nouvelle dont il méprisait les adeptes, et qui, dans l'imagination du peuple, passait pour être basse, dégradante et antisociale. La haine contre le christianisme était à la fois politique et religieuse. On considérait le système des chrétiens comme anti-romain, on le dénonçait comme ayant des intérêts contraires à la prospérité et à la grandeur de l'Empire, puisque ses fidèles obéissaient à un pouvoir spirituel et invisible. On déclarait les chrétiens « irreligiosi in Caesares », déloyaux envers l'empereur. C'était assez les dénoncer à la haine d'en haut. Leur sûreté et leur paix dépendaient donc beaucoup de l'état des sentiments populaires. Quand un démagogue ou un fanatique réussissait à soulever le peuple contre les chrétiens, en rappelant ses griefs, c'est en vain qu'ils niaient les crimes dont on les accusait, en vain leur vie paisible et irréprochable frappait tous les regards, rien ne pouvait les sauver d'une persécution. Après cette digression, nous allons reprendre notre récit interrompu.